après-midi sur Fadjet, il est 13h.
On a tous, ou pour la plupart d'entre nous, cette image d'une Suisse verte, d'une Suisse riche de ses paysages, d'une Suisse calme, d'un cadre de vie luxuriant et apaisant. Et pourtant, bien loin de l'imaginaire collectif, c'est bien la Suisse qui a été condamnée pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme le 9 avril dernier. Déjà pointée du doigt par un groupe d'activistes, cette colère transformée en un mouvement de plus grande ampleur s'est vue couronnée de succès à Strasbourg devant la Cour. Alors vient l'épineuse question, la Suisse en fait-elle assez ? Ne vous inquiétez pas, European Roll tentera d'y répondre en apportant quelques pistes de réflexion. Parce que la Suisse n'est pas seulement l'image légèrement clichée dessinée en début d'émission, toute l'équipe d'European Roll a décidé de voir la Suisse au travers d'une perspective inhabituelle, celle du sport, siège du Comité international olympique à Lausanne, candidature d'accueil avortée pour les JO d'hiver de 2030, mais en vue pour ceux de 2038. Qu'en est-il de la Suisse au travers du prisme du sport ? Vous saurez tout d'ici une demi-heure.
Actu, débat, culture, idées, musique.
Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'European Roll.
Bienvenue sur European Roll, l'émission européenne réalisée par les étudiants et étudiantes du campus de Sciences Po à Nancy, diffusée le lundi à 17h, le dimanche à 13h, et disponible en podcast sur Spotify et, c'est nouveau, sur Deezer. Au sommaire cette semaine, Victor, que vous avez l'habitude de trouver en tant qu'animateur, sera aujourd'hui chroniqueur et tentera de répondre à cette question « La Suisse est-elle écologique ?» en s'appuyant sur l'actualité et la sanction de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme. Cap sur la ville de Roll, victime de cyberattaque, et Mathilde Jeanne se chargera d'élargir l'enjeu des données privées à l'échelle du pays. Qui dit Suisse dit langue nationale et minorité, Carlotta nous parlera de la place de la langue italienne en Suisse. On finira l'émission en adoptant une perspective sportive, puisque Carla nous parle danse et plus particulièrement du prix de Lausanne. Elle nous dira tout. Je remercie Arnaud, notre DJ du jour, et qui semble y avoir pris goût, et Victor en double casquette aujourd'hui, qui assurera également la technique. Tout de suite, sans attendre davantage, on traverse les Alpes, frontière naturelle franco-suisse. En parlant de nature, il y a du nouveau en Suisse concernant l'environnement. Et si la réponse aux défis posés par le changement climatique provenait d'un groupe de femmes retraitées suisses ?
La question a le mérite de se poser depuis que la plainte de l'association Aînés pour le climat, regroupant 2500 femmes suisses de plus de 64 ans, a débouché sur une condamnation de l'État suisse pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Une petite clarification s'impose tout de suite pour nos auditeurs, donc la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas liée à l'Union européenne dont la Suisse ne fait pas partie, mais au Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale regroupant majoritairement des États membres de l'UE, mais pas uniquement, la Turquie ou encore la Suisse en font par exemple partie. La Cour européenne des droits de l'homme a comme mission d'assurer le respect des engagements des États ayant signé la Convention européenne des droits de l'homme. L'accusation des Aînés pour le climat visait les autorités suisses pour ne pas avoir engagé de politique climatique suffisante pour protéger leur santé, notamment avec la hausse des températures, ce qui, d'un point de vue pénal, constituait le viol de leur droit à une vie privée et familiale normale, garantie normalement par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, je cite, « La Confédération suisse a manqué aux obligations que la Convention lui a imposées vis-à-vis du changement climatique. La Suisse a donc été accusée de graves lacunes, plaçant donc le pays dans une situation assez inconfortable. » La présidente en exercice de la Confédération helvétique, Viola Amherd, s'est dite surprise par le jugement. Elle explique que la durabilité, la biodiversité et l'objectif net de zéro gaz à effet de serre étaient très importants pour le pays. Toutefois, un des 5 avocats de l'association Aînés pour le climat dénonçait « Un pays aussi riche et développé et doté des meilleures écoles et technologies n'a plus d'excuses. Il doit donner l'exemple, se poser en pionnier plutôt que de se contenter de végéter en milieu de tableau. » En effet, au niveau européen, la Suisse se situe dans la moyenne, derrière l'Allemagne et les pays scandinaves, notamment à cause du droit d'opposition au niveau municipal, qui complique fortement le déploiement des énergies renouvelables.
Et qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
La Suisse devra donc veiller à calquer sa politique climatique sur les objectifs fixés. Concrètement, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme implique une obligation de moyens et de résultats. Bien que la décision ne soit pas contraignante en tant que telle, la Cour n'étant pas en mesure d'établir des sanctions en cas de manquement, son jugement n'en a pas moins une portée politique d'ampleur. En témoigne l'appel du premier parti politique du pays à quitter le Conseil de l'Europe, par exemple. C'est un symbole du devoir des États envers leurs citoyens. Ces derniers doivent rendre des comptes et se doivent d'être transparents dans la menée de leur politique climatique.
Merci beaucoup Victor, ça y est, on y est, l'émission est lancée. Quoi de mieux que connaître un peu plus la Suisse au travers de sa culture musicale ? Arnaud, je te confie cette mission.
En préparant la playlist du jour, je me suis rendu compte que la parité linguistique n'était pas tout à fait respectée dans mes choix très alémaniques. J'ai demandé à une amie suisse, germanophone, qui m'a dit que, de toute façon, les romans et les tessinois sont exclus quoi qu'il arrive. Alors pour ne pas tomber dans l'écueil de ces 60% de germanophones qui écrasent les autres communautés linguistiques, je vous propose donc de commencer par un titre fraîchement venu de Romandie. Le rappeur Stress a récemment sorti deux chansons qui surprennent dans une coopération avec la Coop, première chaîne de supermarché en Suisse avec la Migros. Avec On n'a qu'une terre et C'est réel, Stress fait joliment écho à la chronique de Victor en tirant musicalement la sonnette d'alarme du climat et de la biodiversité.
Écoute ce battement, écoute ce signe vital. Quel que soit le cœur humain, animal ou végétal, trop souvent on l'oublie, mais la vie est tout autour de nous. Tout est vivant, on vient du vivant comme ce pain devant vous. On fait tous partie du même cycle, mais l'homme veut imposer son rythme. On construit sur produit, pousse la nature à ses limites. Combien de temps peut-on encore prendre sans rendre, raser sans apprendre, descendre qu'on engendrait. Tout ça pourquoi? Pour notre survie, alors qu'elle dépend de la nature et sa survie. Et jusqu'à cause de notre espèce, des milliers d'autres disparaissent. C'est la différence pour notre monde avant que le dernier domino tombe. J'aimerais que ce soit qu'un rêve, mais c'est réel. Je vois la vie s'éteindre, ouais c'est réel. Les mers se vident, les terres s'épuisent, les chiffres révèlent. Est-ce si le progrès, ouais c'est réel. C'est la dernière des chances à notre échelle. Faites qu'elle soit enfin réelle. Faut que ce soit réel. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est dans ce battement que se trouve l'espoir. Dans ce battement se mélange le désir et le devoir. Qui pollinisera nos plantes une fois les abeilles disparues? Qui enneigera nos pentes une fois que le mercure aura cru? Car le 30% du vivant a disparu en 30 ans. J'espère qu'on arrivera à changer de cap pour les 30 suivants. Mais au lieu de changer ses comportements qui nous plombent, on passe notre temps à vouloir changer le monde. On veut le parfaire et l'uniformiser, alors que les imperfections le rendent parfait. Avec toute cette beauté que l'on détruit, on détruit une partie de nos vies. C'est la différence pour notre monde avant que le dernier domino tombe. J'aimerais que ce soit qu'un rêve, mais c'est réel. Je vois la vie s'éteindre, ouais c'est réel. Les mers se vident, les terres s'épuisent, les chiffres révèlent. Est-ce si le progrès?
C'était C'est réel du rappeur Stress sur Radio Fadjet. Vous êtes toujours à l'écoute d'Europe & Roll. Piratage de données, rançons, mairies ou hôpitaux désemparés face aux menaces et aux attaques, Roll rejoint la déjà très nombreuse liste des villes concernées par ce nouvel enjeu et cette nouvelle menace. Mathilde Jeanne, tu reviens plus en détail sur ces nouvelles ressources convoitées que sont les données privées.
Oui, en mai 2021, la ville de Rolles, située dans le canton de Vaud, en Suisse, fut victime d'un piratage massif de son système informatique, orchestré par le groupe cybercriminel Vice Society. Cela a commencé par une menace proférée à la mairie de Rolles par un rançon logiciel, et face au refus de la mairie de payer la rançon, le groupe Vice Society s'exécute et divulgue des données personnelles de plus de 5000 citoyens de Rolles sur le Darknet. Nom, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, copie de carte de crédit, demande d'exonération fiscale d'une entreprise de Rolles, bref, des données très personnelles appartenant au réseau de la mairie et aux citoyens sur Internet. Et pourtant, les citoyens n'ont rien su de cette attaque pendant 2 mois, avant qu'un média découvre les données sur le Darknet en août 2021. La mairie de Rolles a reconnu avoir été naïve quant au risque qu'implique cette cyberattaque. Car en effet, une cyberattaque ne reste pas sans conséquences, rappelle Julien Cartier, commissaire de la police cantonale vaudoise. Selon lui, les cybercriminels peuvent procéder à une réutilisation de données à haute valeur afin de faire des malversations. Ils peuvent par exemple ouvrir des comptes financiers grâce à un document d'identité trouvé sur le Darknet. Le Centre national pour la sécurité a déclaré en août 2021 que les entreprises suisses se montraient trop négligentes face aux risques récurrents de cyberattaques. L'organisme insiste sur la nécessité des entreprises de mettre en œuvre des mesures de sécurité préventive afin d'éviter un nouveau piratage. Les systèmes doivent automatiquement être remis à jour en matière de sécurité. Les logiciels ou les systèmes qui ne sont plus actualisés par le fabricant doivent être désactivés ou transférés dans une zone de réseau séparée et isolée. Il faut également assurer la sécurisation des accès à distance, comme le VPN, le RPD, ainsi que tous les autres accès aux ressources internes, comme les messageries électroniques, qui doivent obligatoirement être sécurisés. Enfin, il est fortement recommandé aux entreprises de bloquer la réception de pièces jointes dangereuses sur leur messagerie, y compris les documents Office avec Macro.
Merci Mathilde. Merci Mathilde Jeanne, tu nous as même glissé quelques conseils pour prévenir un maximum ces situations. Carlotta, c'est à toi. Quelle place occupe la langue italienne en Suisse ? Tu nous dis tout, entre son arrivée il y a quelques siècles, son utilisation et aujourd'hui quelques différences de sens. Je te laisse nous expliquer tout ça.
Encore une fois, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la langue italienne, qui n'est pas langue officielle qu'en Italie, mais aussi en Suisse. Par contre, tout le monde ne sait pas que cette dernière se distingue de l'italien parlé dans le bel paese par plusieurs aspects. L'italien est la troisième langue nationale suisse et est parlée dans les cantons de Ticino et du Grigione Italiano.
Comment s'est diffusé l'italien au sein de la Suisse ?
Après la Seconde Guerre mondiale, l'italien est devenu une langue pivot, facilitant les échanges des travailleurs étrangers dans les usines et sur les chantiers en Suisse, car les Italiens étaient majoritaires dans la population des travailleurs immigrés. Le processus qui a confirmé la position décisive de la langue italienne en Suisse a débuté avec les immigrés espagnols, qui l'ont facilement apprise. Par la suite, d'autres groupes ethniques, comme les grécophones ou les yougoslaves, ont également appris l'italien, encouragés par sa facilité d'apprentissage dans des contextes informels. Cependant, dès nos jours, l'utilisation de l'italien comme langue franca parmi les travailleurs suisses diminue.
En quoi l'italien suisse est-il différent ?
À vrai dire, il y a des différences entre l'italien de Milan et de Naples qu'entre celui parlé au Tessin et à Milan. La version suisse, en effet, tant en termes d'accent que de grammaire, ne diffère pas beaucoup. Ce qui est surprenant, cependant, c'est de découvrir les variants lexicales qui dérivent de l'influence du français et de l'allemand. Il est fort probable qu'il se produirait des malentendus entre moi, une personne née et élevée en Italie, et en Suisse, même dans les conversations de tous les jours. Certaines différences sont étonnantes, je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'il s'agit de l'alimentation, les Suisses se démarquent déjà. Les fette biscottate, qu'on appelle en français biscotte, se disent zibac en Suisse. Si en italien on utilise l'adjectif evidente avec une connotation similaire au français, évident, en italien de la Suisse italienne, evidente est aussi utilisé pour faire référence à quelque chose de facile. Si je devais demander à emprunter un cellulare, téléphone en français, en Suisse je devrais demander un natel. Natel était le nom commercial du premier réseau de téléphonie mobile et désigne désormais le téléphone lui-même.
Quel est le statut de l'italien suisse aujourd'hui ?
En Suisse, l'italien est la langue principale pour 8,4% de la population, mais 33% des locuteurs déclarent ne maîtriser la langue que partiellement. De plus de la moitié des italophones résident en dehors de la Suisse italienne. Cette dispersion crée une communauté linguistique fragmentée, unie principalement par la langue. Des indicateurs démolinguistiques révèlent l'impact de l'immigration italienne sur la diffusion de l'italien, notamment au nord des Alpes. L'immigration continue d'influencer la position de l'italien en tant que troisième langue principale et son utilisation dans la vie quotidienne, en particulier dans les contextes familiaux et dans une moindre mesure professionnelle. Bien que législativement protégé, l'italien présente des disparités entre son utilisation orale et écrite. Il est largement utilisé dans les communiqués de presse, les textes juridiques et les offres d'emploi, mais sa valeur communicative est limitée à l'oral. Les parties culturelles telles que la lecture, l'écoute de la radio, la télévision et Internet jouent un rôle crucial dans le maintien des compétences linguistiques italiennes, en particulier pour les locuteurs natifs. Cependant, l'utilisation des films en italien est limitée en dehors des régions traditionnelles italophones, tout comme l'accueil en italien dans les musées situés hors de ces régions. Ces données soulignent la nécessité de maintenir l'attention sur la situation de l'italien en tant que troisième langue nationale et encouragent des nouvelles initiatives pour promouvoir le multilinguisme en Suisse.
Merci Carlotta. On reste en quelque sorte dans le thème puisque Arnaud, tu nous as préparé une deuxième coupure musicale.
Oui, pour continuer ce voyage musical en terre helvétique, je vous emmène outre Sarine, derrière la barrière de Rushti. J'ai choisi un titre très populaire en Suisse, qui nous vient tout droit de la ville qui abrite les institutions politiques, mais qui, si l'on est pointilleux, n'est pas vraiment la capitale, sauf aux yeux de ses habitants. Je veux parler de Berne, bien sûr. Avec ce titre qui est longtemps resté tout en haut des classements, le duo Lo und Le Duc nous apprend à compter en Schweizerdeutsch. Dans cette chanson pop romantique, dont la fin est tragique mais l'air joyeux, ce qui mène l'amoureux protagoniste à sa perte, c'est la recherche interminable et désespérée du numéro de téléphone de celle qu'il aime et les 10 millions de combinaisons possibles à partir de l'indice téléphonique que lui a laissé la téléphoniste 0701 ou 079. Avant de finir sur le 844, le numéro des urgences médicales en Suisse, la chanson inclut quelques mots d'italien, ça et là, pour que le Tessin et Carlotta ne nous envoient pas trop.
Gab sie mir wenigstens vorwahl, per favore. Ey, per favore. Oh, gab sie mir wenigstens vorwahl, per favore. Der gab's nummer nozza milione. Wie ist das nun mal passiert? Hey, sie gseht, du hast sie, hey, sie gseht, ja. Und sie will
C'était Null Siebenun sur Radio Fadjet. Pardonnez mon accent allemand en Suisse. Vous êtes toujours à l'écoute d'Europe & Roll. Comme je vous le disais en début d'émission, on voulait aussi s'intéresser à la Suisse via une perspective sportive. Détrompez-vous, pas la peine de chausser crampons ou chaussures de rando. Avec toi Carla, il est plutôt question de pointe.
Et oui, la Suisse, c'est aussi un lieu de rencontres artistiques internationales, un véritable rendez-vous pour les passionnés de ballet venus du monde entier. C'est en effet à Lausanne que se déroule chaque année, durant la dernière semaine de janvier, un des concours internationaux de danse classique et contemporaine les plus prestigieux, le Prix de Lausanne.
Alors, comment cette compétition a-t-elle vu le jour ?
Véritable point de départ de brillantes carrières, le Prix de Lausanne a été créé en 1973 par un couple suisse passionné de danse. L'initiative de la création de cet événement devenu immanquable dans le monde de la danse est liée au constat suivant. Les jeunes danseurs et danseuses issus d'écoles de danse peu influentes et peu développées souffrent de soutien financier et donc de difficultés à atteindre un niveau professionnel. Ils décident alors de s'accompagner de Rosilla Hightower, danseuse étoile franco-américaine ayant donné son nom à un prestigieux pôle de formation pluridisciplinaire de danse basé en France à Cannes, ainsi que Maurice Béjart, figure incontournable de la danse, célèbre grâce à ses chorégraphies expressives et novatrices comme le Sacre du Printemps, dans le but d'élaborer les règles de la compétition. Si la première édition ne rassemblait que quelques dizaines de danseurs et danseuses majoritairement suisses, sinon issus de 8 pays occidentaux tout au plus, le concours s'est progressivement internationalisé. Les sélections se sont également endurcies, ce qui a permis au concours de gagner en prestige. Ainsi, d'un simple événement, le Prix de Lausanne est devenu au fil des années une véritable institution formant des danseurs du monde entier, du Japon à la Russie, en passant par l'Australie, le Brésil ou encore le Royaume-Uni.
Tu as évoqué les sélections du concours. Peux-tu nous en dire plus sur la manière dont le Prix de Lausanne s'organise ?
Avant de participer au concours, les danseurs et danseuses âgés de 15 à 18 ans suivent un long processus de sélection. Ils sont tout d'abord pour consigne de fournir une vidéo de 15 à 20 minutes contenant des échauffements à la barre puis des exercices très codifiés au milieu, tels que des pirouettes, des exercices d'adage, des petits allégros ou encore des exercices sur pointe pour les filles. À cela, les candidats et candidates joignent une démonstration de danse contemporaine. La deuxième phase d'admission concerne le stage intensif. Durant une semaine, une présélection européenne est organisée parmi les candidats et candidates dont les vidéos ont déjà convaincu le jury. Une fois cette étape passée, les artistes, ou plutôt les athlètes qui n'ont rien à envier aux plus grands sportifs et sportives, font l'objet d'un contrôle médical drastique. Pas question de risquer la lésion musculaire ou l'épuisement émotionnel. Des spécialistes de la santé passent tout d'abord au crible les dossiers médicaux de chacun et chacune des artistes pour s'assurer que leur corps résiste à cette compétition longue et exigeante puisqu'elle dure une semaine. En effet, échelonnée sur 5 jours, la semaine comprend des cours à la barre et au centre, des cours de contemporain et des séances de coaching pour les variations du répertoire classique ainsi que pour les variations imposées contemporaines. Ainsi, les candidats et candidates sont jugés sur leur travail de toute une semaine. Le dernier jour, la finale tant attendue, s'apparentant presque à un spectacle puisqu'elle est ouverte au public, voit défiler les meilleurs élèves ayant été retenus après une dernière sélection organisée durant la semaine du concours. Elle donne lieu à la représentation successive des variations travaillées au cours de la semaine. Finalement, les 7 meilleurs reçoivent des bourses leur permettant de perfectionner leur pratique de la danse et d'enrichir leurs expériences, mais aussi de véritablement entamer leur carrière professionnelle en côtoyant des compagnies de renommée mondiale.
Et enfin, quelles sont les missions du Prix de Lausanne ?
Depuis sa création, la compétition vise à donner une visibilité aux danseurs et danseuses d'exception qui ont la chance d'être approchés par un jury de la plus grande qualité. La mission des fondateurs du concours est également de promouvoir la formation scolaire des artistes, dont la carrière est relativement courte, de 18 à 38 ans environ, en s'assurant qu'ils obtiennent un diplôme. Cependant, même si le concours a révélé des danseurs et danseuses de renom, tels que Carlos Acosta, danseur étoile du Royal Ballet, finaliste en 1990, Benjamin Millepied, étoile au New York City Ballet et finaliste en 1994, ou encore Sean Park, étoile de l'Opéra de Paris depuis 2021 et finaliste en 2007, il ne s'agit pas que de créer des étoiles montantes de la danse et des célébrités du monde du ballet. L'objectif est surtout de leur offrir une formation des meilleurs qu'ils soient, de quoi leur permettre de parfaire leurs compétences et d'apprendre le plus possible. Enfin, le Prix de Lausanne continue de s'internationaliser. Cette année, pour la première fois, le stage de présélection qui se déroulera du 8 au 13 juillet s'ouvre aux danseurs internationaux, alors qu'il était jusque-là réservé aux artistes européens uniquement. La Suisse s'ouvre dès lors d'autant plus sur la scène internationale.
Ça, c'est l'Europe.
Merci Carla. Vous commencez à nous connaître. Qui dit dernière musique d'Arnaud signifie que notre émission touche à sa fin. Ça y est, vous savez tout sur nos voisins suisses en matière d'environnement, de sport, de langue nationale et officielle. Ainsi même qu'en termes de musique, la Suisse n'a plus aucun secret pour vous. On se retrouve dans 2 semaines. European Roll vous dit rendez-vous pour notre dernière de l'année. Tout de suite Arnaud, la main est à toi pour finir en beauté notre émission.
Qui a dit que le Suisse-Allemand n'était pas romantique ? Si la tentation de vous faire écouter le traditionnel yodel et les remarquables performances du larynx du fameux groupe Ørstedsgruppen, j'ai préféré vous présenter la musique de Suisse alémanique dans ce qu'elle a de plus doux. Pour défendre un petit peu l'honneur de la langue de mes compatriotes, je vous propose Delphi die Hebe, qu'on peut traduire par « Puis-je te tenir dans mes bras ?» du très célèbre Zurichois Faber, dans un trio musical coup de foudre né du Covid avec le jeune Dino Brandao et la bernoise Sophie Hunger. Dans cet album dramatique romantique qui échappe au ton sirupeux des chansons d'amour en anglais ou en français, en privilégiant l'authenticité et la simplicité du suisse allemand, le trio ramène l'amour au centre de la réalité et le drape de mélancolie.
Da wie die Hebe, nur ganz fein, mach die Tür zu hinter dir. Ich hab mich heute schon 40 Mal verliebt, aber jedes Mal in dich. Da wie die Hebe, nur einmal, da wie die Hebe, weißt, es kommt nimm drauf an, was jetzt schön ist, tut morgen weh, und so ist sie die und je.
Darf ich die Hebe, du bist ein Sieger, macht mich bewegen, einmal du bügen und brechen zu deinen Liedern. Lass mich schnaufen, mach mich auf. Darf ich dich heben? Ich bin allein, schon wieder Winter. Bring mich heim, ich bring dir ab. Ich find kein Trost, entweder die Liebe oder der Tod.
Darf ich dich heben? Ist's vorbei? Und was ist los? Ist etwas gewesen? Keine neuen Bänder, keine Lockerung, nein. Jongliere Glut für mich allein. Darf ich dich haben? Sag ich's dir gleich. Eigentlich nicht, ach, lass mich sein. Kannst dir vorstellen, was es tut, wenn man sich nie mehr ganz näher
avec Fadjet, faites le plein de nouveautés.
Si tu savais comme c'est beau.
Joseph Kamel featuring Julien Doré.
Si tu voyais comme c'est beau.
Gossip.
Give me something real. Real.
Fadjet. Toujours une longueur d'avance sur la musique.
It takes one to know. Back at it again. Birds of a feather. And tell them in. Stitched, patched up and sold in. I tried to see you again. More certain it's likely. My friend.
Quand je grandis, je me meurs. Maman m'a dit, c'est pas ton heure, trouve le bonheur. Tout ce que je vois, c'est que j'ai peur. Je vais voir ailleurs, alors maille après ton dealer. Donne-moi un truc, je veux partir loin. Mardi dispute, on fera le point autour d'un joint. Dans l'ascenseur, faire attention. Y'a des limites, sois pas trop joueur des sensations. Sois pas trop joueur des sensations.